got you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Ingrid Lukegan et Anaëlle Pigeat. Notre affiche, la Fondation Courtauld, le parti de l'impressionnisme, la Fondation Louis Vuitton, les Nabiers de décor au musée du Luxembourg, Stéphane Mandelbaum au centre Pompidou, et puis il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour l'exposition Lycanthropos 2 de José Manuel Egea, voir jusqu'au 1er juin à la galerie Christian Berst. Nous ouvrons cette dispute avec la collection Courtauld, le parti de l'impressionnisme. C'est à voir jusqu'au 17 juin à la Fondation Louis Vuitton. Les commissaires en sont Karen Serre, Angéline Scherf avec Sixtine de Saint-Léger. La scénographie est signée Marco Palmieri. Avant de parler de cette exposition, un premier sentiment, en tout cas le résumé avant que vous ne développiez tout à l'heure, Anaëlle Pigeat.
Samuel Courtauld, c'est un personnage de roman. Cette exposition, c'est une collection de chefs-d'œuvre. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle attire tant de gens à la Fondation Vuitton et que les salles du musée Courtauld à Londres étaient si peu peuplées jusque récemment.
Ingrid Lukegan.
Alors, ce n'est pas qu'une exposition de chefs-d'œuvre, mais vraiment une recontextualisation et une histoire matérielle de la valeur. Qui nous explique comment on arrive à considérer comme chef-d'œuvre certaines œuvres avant même qu'on les ait vues.
Corinne Rondeau.
Ah, c'est des beaux tableaux.
Encore une exposition de collectionneurs, donc, alors pas n'importe lequel, collectionneur qui a constitué l'essentiel de la sienne avec sa femme Elisabeth entre 1923 et 1929. Il y avait déjà une exposition consacrée à Paris à cette collection Courtauld, c'était en 1955, je n'y étais pas, je l'avoue. C'était juste quelques années d'ailleurs après la mort de Samuel Courtauld, et c'est la fermeture temporaire de l'Institut et Galerie Courtauld dont on reparlera. Institut et Galerie Courtauld à Londres, fermé pour travaux, qui offre l'occasion de ce voyage des œuvres présentées à Paris. Au-delà de ces quelques faits, Anaëlle Pigeat, qui était donc ce Samuel Courtauld?
Et comme je disais en introduction, c'est vraiment un personnage de roman qui est une figure assez paradoxale, finalement assez modeste. Samuel Courtauld, c'est un industriel anglais, d'abord, d'une famille protestante, de Huguenots, qui a transformé une société familiale de textile en une success story et qui a étendu les activités de cette entreprise au champ de la chimie. C'est un personnage qui est assez peu connu, dont la personnalité, la personne a d'ailleurs fait l'objet de pas mal de recherches à l'occasion de cette exposition. Samuel Courtauld, c'est aussi un collectionneur, introducteur de l'impressionnisme dans l'Angleterre du début du XXe siècle. On ne peut pas dire que ce soit un collectionneur radical au sens où il aurait été visionnaire, parce que la première exposition impressionniste en France est en 1874 et que lui achète quasiment 30 ans plus tard. En revanche, s'il y a une radicalité, et il y en a une, elle réside plutôt dans l'ampleur de ses achats en un très petit nombre d'années. La même accueilli des visiteurs chez lui pour voir ses tableaux un peu comme dans un musée, alors qu'il s'agissait encore de sa maison particulière. Et puis en fait, Samuel Courtauld est aussi un poète et d'une certaine manière un chercheur, puisque c'était un collectionneur qui faisait beaucoup de lectures, beaucoup de travaux autour de ses achats, des recherches approfondies. C'est un ami de beaucoup de membres du groupe de Bloomsbury, qui a fréquenté Keynes, qui a écrit sur les œuvres aussi des poésie, enfin des poèmes et des textes littéraires. C'est enfin un père de famille, un époux de cette Elisabeth qui a joué un grand rôle, qui est et d'ailleurs cette femme est très mise en valeur dans l'exposition, comme vous le disiez, pour qui le voyage de noces à Florence en 1901 a joué un rôle très important dans dans leur découverte de l'art. Donc en fait, c'est un personnage extrêmement complet, dont les activités sont aussi celles d'un mécène et d'un philanthrope.
Alors justement, philanthrope, j'évoquais l'Institut, la galerie, le Grindelkengan, c'est une dimension qui est importante, là aussi, qui est bien mise en valeur, mais en fait, à juste titre. Qu'est-ce qu'il a donc fait, ce Samuel Courtauld ?
Alors effectivement, c'est un peu le paradoxe et l'épaisseur de ce personnage qu'est Courtauld. C'est-à-dire que cet industriel qui devient président de la société Courtauld en 1921 et qui commence à collectionner en 1922 s'exprime dès le départ sur la perte des valeurs spirituelles et sur le matérialisme qui corrompt pour lui la société dans laquelle il vit. Donc à travers tous ses écrits, on va le voir exprimer la vertu civilisatrice de l'art moderne et assigner à cet art impressionniste qu'il va donc pousser en Angleterre les mêmes vertus qu'il reconnaît à la Renaissance italienne. C'est-à-dire un art qui va justement relier les peuples par-delà les frontières et par-delà les races. Et cette dimension philanthropique, qui développe en grande partie avec l'économiste Keynes, qui posera donc les bases du modèle de l'État-providence, va s'exprimer chez lui dès 1923, lorsqu'il créera le fonds Courtauld pour l'enrichissement des collections modernes des musées anglais. C'est par là, effectivement, qu'on le connaît, non pas comme celui qui a découvert l'impressionnisme, mais comme celui qui l'aura vraiment fait rentrer dans les collections nationales anglaises.
Parce qu'il y a sa collection, mais il y a aussi toutes les œuvres qu'il achète pour abonder les institutions britanniques.
Et en 1923, donc, il va faire don de 22 tableaux achetés pour la National Gallery. Donc c'est une activité qu'il va poursuivre tout au long de sa relativement courte carrière de collectionneur, puisqu'en 25, il va créer un fonds de philanthropie avec Keynes, qui va surtout soutenir les jeunes artistes. Donc on voit qu'il s'écarte progressivement de son cœur actif des tableaux impressionnistes pour également aller approfondir un rôle au sein de la société anglaise. Et enfin, la dernière étape qui aura lieu après la fin de ses activités de collectionneur, après 1929, c'est la création évidemment de l'Institut Courtauld en 1932, qui sera rattaché à l'Université de Londres et qui sera en Angleterre la première institution pour l'éducation artistique et l'histoire de l'art, de conservation et de restauration.
Donc il y a beaucoup de conservateurs, mais aussi d'historiens de l'art qui sont passés par cet institut, et cela continue. Voilà pour ce paysage qu'il fallait dresser avant d'entrer vraiment dans l'exposition. Alors, peu de salles, hein, Corinne Rondeau, pour cette exposition de la collection Courtauld. Mais on va dire qu'un accrochage assez dense. Comment l'avez-vous vécu, vous, cette exposition ?
Assez banalement, c'est une succession de salles par artiste, on peut dire presque. Il y a 6 salles, dont une salle de guest, c'est le frère de Courtauld avec des aquarelles de Turner. Mais donc le début, c'est Manet, puis ensuite suivra, je crois, je les ai notés, mais peu importe, Seurat, puis Cézanne, puis il y aura dans une salle du Gauguin avec du Van Gogh. Chaque salle est parfaitement, les cimaises sont peintes avec beaucoup de goût, on va dire, et puis l'œuvre à voir est impérative et est mise dans un renfoncement. Donc vous avez le temps de vous perdre au milieu des gens et puis vous avez le signal dans le mur lui-même disant là il y a un truc à voir, si vous ne voyez pas le reste, regardez ça. Voilà, donc
c'est quoi ça?
Alors ça c'est le chef-d'œuvre, on va estimer de ce que de la collection, à savoir le bar aux Folies Bergères de Manet, bah, quand même bon. Ça va être le Van Gogh coupé à l'oreille coupée, ça va être en termes de Cézanne, vous avez il y a très très beau Cézanne, il y en a deux magnifiques qu'il avait toujours à portée de main, on va dire, qui sont le lac d'Annecy qui est très beau, qu'on voit peu et c'est dommage parce qu'il a vraiment un caractère très sombre. Très presque mélancolique alors qu'il passait des vacances là, Cézanne. Bon, bref. Donc voilà, on a de très belles pièces. Moi, j'ai été surprise par son grand regard sur la question du dessin. Il y a deux Toulouse-Lautrec. Les peintures m'intéressent pas du tout, mais le dessin était prodigieux. Il a un goût pour même le vide, c'est-à-dire l'équilibre du trait par rapport au papier. Je trouve ça assez remarquable. Même le Picasso qu'il a, il est comme lui, c'est-à-dire un être discret et on se réjouit que la philanthropie ait eu une histoire qui s'appelait la discrétion, ce qui n'est pas du tout le cas de ceux qui l'accueillent, je dirais, aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons un film à la fin qui je pense a été fait par l'Institut lui-même Courtauld. Je ne crois pas que ce soit une production de Louis Vuitton, enfin à vérifier. À un moment donné, vous avez une image comme ça de publicité de Courtauld dans le journal, et puis le plan s'éloigne, et puis on voit une publicité pour Louis Vuitton. Donc là, je me suis dit, bon, on n'est quand même pas face au même collectionneur, et on n'est pas à la même époque, et donc je me réjouissais... est-ce que je me réjouis quand je vais chez Vuitton ? Non, jamais. Mais je me réjouissais de voir que la culture, ce n'est pas que le goût pour une collection, c'est aussi la culture... qui est la nôtre, c'est-à-dire c'est un huguenot. Enfin, je veux dire, il y a une vraie tradition du protestantisme, carrément du luthérianisme, qui renvoie à des rigueurs. Et je trouve que la rigueur morale se ressent dans la collection. Quand on voit les seras qui sont sublimissimes, et j'étais très impressionnée par ce goût très présent chez, mais pas étonnée par rapport à la personnalité. Seras, c'est quand même, il y a un prodigieux tableau de plage, c'est de l'air et de la lumière, comme disait Seras. C'est à la fois une étude en petit format, et après il y a un grand tableau qui s'intitule La plage de Gravelines, le chenal de Gravelines, et qui est magistral. Je trouve que notamment d'acheter 8 petites esquisses à la va-vite de Seras, qu'on ne voit jamais, parce qu'on est plutôt on a tendance à connaître Seras sur son côté divisionnisme, enfin vulgairement on appelle ça du pointillisme, c'est-à-dire comment en fait la lumière elle va être travaillée par des couleurs complémentaires, par des couleurs séparées. Et donc là, je trouve que d'un coup, j'avais deux vitesses de la peinture de Seras et qui était à l'intérieur de ce travail de collectionneur. Pourquoi les esquisses ? Mais parce qu'en fait, je pense que c'était un éclairage même pour le collectionneur de ce travail de la lumière et puis de la couleur aussi, puisque c'est aussi dans le caractère propre à la collection, je crois.
Ingrid Le Kegan.
Alors moi, j'ai trouvé que c'était une exposition beaucoup moins hors sol que la plupart de celles qu'on peut voir à la Fondation Vuitton. Puisque contrairement aux expositions de collection qu'ils ont pu faire par le passé, on a ici vraiment l'accent qui est mis sur l'histoire matérielle de ces tableaux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui achète donc beaucoup plus tard. Il achète dans les années 20 des tableaux qui ont été faits dans les années 60, 70, 80. Donc il faut vraiment lire les cartels, parce que de manière très simple et très détaillée, on voit un peu la circulation de ces tableaux et on voit également qu'il achète jamais seul. C'est-à-dire qu'il est très très bien entouré. Il va acheter à beaucoup de marchands, à Vollard, à Durand-Ruel, à Paul Rosenberg, à Percy Moore Turner, qui à l'époque est le directeur de l'Independent Gallery à Londres. Et donc, on voit un peu comment justement il s'appuie sur des connaisseurs pour constituer sa collection. Donc, on a moins une mythologie comme ça d'une subjectivité éclairée qui va avoir un goût extraordinaire, mais vraiment un cheminement qui nous montre comment se constitue la valeur de certains tableaux. Et à la Fondation Vuitton, effectivement, bon, pour une fois, ça fait sens, parce qu'on voit également qu'on est plus à l'ère des grands mécènes de la Renaissance, où une personne peut tout connaître et tout acheter, mais qu'on va progressivement vers une espèce comme ça de distillation du goût à travers certaines figures éclairées.
Annette Pigeat.
Effectivement, une des vertus de cette exposition réside dans le déplacement de cette collection, puisqu'elle est montrée, l'essentiel de la collection est montré dans l'exposition de Vuitton. L'effet de ce déplacement, c'est de réduire évidemment l'intimité qu'on a avec, le rapport intime qu'on a avec les œuvres, le côté domestique que pouvait avoir l'accrochage à Somerset House à Londres, qui est un endroit assez qui était un peu désuet. C'est une des raisons pour lesquels il va être entièrement refait. Et alors, je crois que ça change un peu le regard qu'on peut avoir sur certaines œuvres. Par exemple, notamment, cette extraordinaire ligne d'esquisse dont parlait Corinne à l'instant de Seras, qu'on voit là, non pas accrochée autour d'une cheminée un peu comme un bric-à-brac, comme on imagine que ça ait pu être le cas chez Samuel Courtauld, mais dans une ligne extrêmement, extrêmement précise et qui a pour effet de mettre ces œuvres extrêmement en valeur. Alors ensuite, il y a la question de ces niches à chef-d'œuvre qui effectivement, moi, m'ont un peu gênée parce que il y a aussi beaucoup d'autres tableaux. Effectivement, on peut pas dire que le bar au chef Folies Bergère ne soit pas un chef-d'œuvre, ni la loge de Renoir, ni tous les autres. Mais si on regarde les autres tableaux, il y a une femme à la fenêtre de Degas qui est dans un contre-jour brun et noir absolument sublime. Il y a le printemps de Renoir qui est d'ailleurs accompagné par un poème de Samuel Courtauld qui est extraordinaire aussi. Il y a un pain au bord de la mer sur un fond rose de Monet à Antibes qui est totalement bouleversant aussi. Ceux-là ne sont pas dans des niches, c'est pas grave. Et en fait, je trouve assez agréable l'idée qu'on peut décider soi-même de ce qui est un chef-d'œuvre ou non. Mais bon, une autre des questions que soulève l'exposition, c'est qu'il y a un double parti pris qui est de mettre très fort en avant Seurat et Cézanne. Alors effectivement, Seurat et Cézanne sont deux figures très importantes de la collection de Samuel Courtauld. Mais enfin, il y en a d'autres également. Manet n'étant pas des moindres, Renoir également. Et si on peut dire que Courtauld s'est peu aventuré dans les premières années de la modernité avec Matisse et Picasso, même si ces deux artistes sont présents, ou Modigliani avec ce nu assez classique, il y a d'autres figures qui sont aussi importantes. Donc ce choix peut être discuté. C'est intéressant de le faire.
Corinne Rondeau ?
Oui, non, moi je maintiens que c'est pas parce qu'on s'entoure de gens pour acheter éventuellement qu'on n'a pas une sensibilité qui détermine l'achat. Et je trouve que vraiment on retrouve quelque chose. D'ailleurs, il y a un Gauguin avec le Manet qui montre des tableaux qui sont dans le tableau. On se pose toujours la question de ce qu'il y a dans le bar des Folies Bergères, où le Gauguin, le très roiré, je sais jamais le prononcer, bon, peu importe. Mais on voit qu'il y a vraiment un travail, enfin, il y a un regard de la peinture. Et la peinture, je veux dire, même si elle a une dimension naturaliste, je pense que ça tient aussi à une certaine manière de voir l'art à un moment donné, même s'il est très en retard par rapport à justement ce qui s'est vendu. Voilà, moi j'étais satisfaite et de rencontrer finalement un inconnu, et je dois dire que quand même Seurat, il n'est pas si connu que ça par rapport à Cézanne.
Et
quand on voit la photographie du bureau de Courtauld dans le catalogue, on voit qu'il y a trois petites esquisses de Seurat au-dessous du lac d'Annecy. Il y a un autre Cézanne et à côté il y a un autre Seurat. Enfin il fait dialoguer aussi des choses dans l'appartement qu'on n'a pas, évidemment, dommage, je dirais presque, parce que c'est toujours bien.
Une reconstitution, au moins une salle.
C'est un peu le regret
qu'on peut avoir.
C'était une manière de dire, voilà, c'est le collectionneur de notre temps, dans un autre intérieur, un autre extérieur, une autre
puis
politique.
Vivre avec les œuvres, c'est
parce que la philanthropie, c'est quand même le type qui construit, qui embauche des filles-mères, qui crée des bibliothèques, des appartements pour ces femmes-là. La philanthropie, elle est au-delà. Et le côté dehors-dedans, moi, m'aurait beaucoup intéressé. Et de reconstituer, non pas pour ce grand bâtiment guéri, insupportable, ces formes gigantismes et des lignes pour nous rappeler le contemporain dans la modernité. J'aurais préféré de loin qu'on s'autorise la constitution d'une pièce et pas ce bout à la fin où on a sous vitrine un certain nombre de documents de l'époque, avec journaux, photographies, lettres, etc.
C'est quand même une expression qui a occasionné beaucoup de recherches, et ça n'est pas un hasard, l'Institut Courtauld ayant été extrêmement présent, et toute l'équipe du Courtauld, musée et institut de recherche, ayant été extrêmement présent dans la constitution de l'exposition. Il y a la question, Samuel Courtauld est aussi un collectionneur qui a très peu vendu. Alors il y a un tas d'histoires qui sont en cours encore.
On ne sait pas grand-chose de lui.
On sait absolument peu de choses de lui.
Il
n'a
pas laissé beaucoup de documents personnels. Non, mais oui. Une partie a disparu. Il y a ses poèmes qui ont été publiés.
Ça, c'est génial.
Le catalogue prend vraiment le parti biographique.
Tout à fait.
Il a beaucoup de trous.
Il a beaucoup brûlé de documents, en fait, d'archives de sa femme, de lettres et tout ça. Mais par exemple,
côté romanesque, pour le coup.
Ce qui est extrêmement romanesque.
Il y a aussi un côté un peu hagiographique qu'on sent ressortir.
C'est-à-dire, il y a beaucoup.
On peut l'admirer quand même. Pour le coup, s'il y a quelqu'un qu'on peut admirer, c'est bien Samuel Courtauld. Moi, je pense qu'on fait des hagiographies qui sont parfois douteuses. On en a parlé régulièrement dans cette émission. Celle-là, moi, je suis heureux aussi de découvrir un homme dont je connaissais juste le nom, en fait.
Tout à fait. Et puis de se dire que c'est aussi un personnage sur lequel il reste encore des choses à découvrir. On sait par exemple que son paysage de la Martinique a été vendu. On ignore encore les raisons. Tout ça est passionnant.
Dernier mot, Ingrid.
Moi, je pense que c'est aussi très intéressant par rapport au contexte actuel, hein, où on a beaucoup de remises en cause. Justement de l'argent privé dans les musées, où on se rend compte que tout le modèle anglo-saxon et américain est quand même construit par rapport à des dons dont on se rend compte de la provenance. Donc c'est le cas notamment de la famille Sackler, qui a beaucoup financé la Tate, qui depuis mars ne la financera plus, puisqu'ils sont responsables du scandale des opioïdes aux États-Unis par rapport aux médicaments OxyContin. Et un deuxième cas, c'est à la Biennale du Whitney, Michael Rakowitz qui retire sa participation de la Biennale à cause du vice-président Warren Canders, qui lui finance une société d'armes qui est utilisée sur la frontière mexicaine-américaine. Donc je pense qu'avoir une figure comme ça, pivot, qui est à la frontière justement entre les grands mécènes de la Renaissance et une époque plus moderne, c'est aussi important pour se rendre compte d'où vient l'argent, d'où vient les financements et d'où vient l'orientation d'une collection.
La collection Courtauld, partie de l'impressionnisme, c'est à voir jusqu'au 17 juin à la Fondation Louis Vuitton. Il y a donc un catalogue coédité par la Fondation et l'édition Paul Holberton. À suivre dans la dispute, Lena Bi, Stéphane Mandelbaum et José Manuel Herrera.
France Culture, la dispute. La porte.
Suite de cette dispute très chronologique consacrée aux arts plastiques, puisqu'on passe maintenant aux nabis, les nabis et le décor jusqu'au 30 juin au musée du Luxembourg. Les commissaires en sont Isabelle Chan et Guy Cocheval. La scénographie signée Hubert Legal, assistée de Laurie Cousseau. Alors, il faut être particulièrement attentif parce que ce soir, le jeu de la dispute vous fera gagner les invitations pour aller voir cette exposition. Premier rapide tour de table, j'insiste sur le rapide, n'est-ce pas, Naël Pigeat? Ingrid Lukegan.
Alors, le titre, c'est les nabis et le décor, mais on aurait très bien pu l'appeler Nabi tout court, puisque c'est vraiment le cœur de leur production et qu'on ne peut pas vraiment séparer les deux parties, les peintures et les décors.
Corinne Rondeau.
C'est joli.
Annaëlle Pigeat.
Un sujet merveilleux, une exposition qui laisse en partie sur sa fin.
Nous avons récemment parlé dans la dispute de Paul Sérusier, dont l'exposition autour du tableau Le Talisman se poursuit jusqu'au 2 juin au musée d'Orsay. Le groupe de Nabi s'est formé notamment autour de Sérusier à la fin des années 1880. Sérusier a un peu plus de 20 ans, tout comme Pierre Bonnard, Maurice Denis, Félix Vallotton et la petite douzaine qui forment ce groupe. Corinne Rondeau, avant de parler de l'exposition, pour préciser les choses, là encore, qu'est-ce qui caractérise les nabis?
Qu'est-ce qui caractérise les nabis? Eh bien, avant Paul Sérusier, Paul Gauguin, on va dire. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont tous fait à peu près leur jeunesse au même endroit. Ce sont des élèves du lycée Condorcet, Vuillard, Roussel, mais aussi Lugny-Poët. L'acteur, le metteur en scène, donc du théâtre de l'œuvre, avec qui Vuillard va travailler. Et d'ailleurs, quand Vuillard peint à la colle, c'est une technique de théâtreux, dans la mesure où il faut pas qu'il y ait de reflets qui apparaissent dans les décors, mais aussi de l'Académie Julien avec Sérusier, Bonnard, Ranson. Donc en fait, tous ces jeunes-là se réunissent, mais ils se réunissent effectivement après le choc du Talisman, comme vous venez de le dire, Arnaud, qui est une manière de faire un tableau antinaturel, où il va y avoir des caractéristiques de cette peinture, des aplats, des couleurs vives, juxtaposées, sans dégradé, sans ombre, et qui va beaucoup marquer ensuite Bonnard, puis Maurice Denis, puis viendra Ranson, puis encore il y a notre génération, Vuillard, Roussel, puis ensuite Valenton et Maillol jusqu'au bout. Donc on a vraiment une variété quand même de grands artistes. Je dirais que là, ce qui les définit le mieux, c'est quand Maurice Denis dit ceci à la fois, le talisman, il dit c'est un éblouissement et une révélation à la fois, et il dit finalement c'est fini la fenêtre sur la nature, c'est terminé, il nous faut des surfaces lourdement décoratives, et Bonnard d'ailleurs dira la peinture ne peut être que décorative. Et à l'intérieur de ça, vous avez comme deux orientations, vous avez celle de Sérusier, Denis, Ranson et Roussel, qui est plutôt ésotérique, mystique, plus spiritualisée on va dire. Et puis de l'autre, vous avez Vuillard et Bonnard qui, eux, sont davantage tournés vers la vie quotidienne. Mais ils appartiennent au mouvement générale, on va dire, du symbolisme, à savoir que dont la tâche des symbolistes, c'est d'exprimer l'intériorité, mais évidemment, être au-delà des apparences, c'est aussi penser à cet au-delà du mystère qu'on peut retrouver, notamment chez Maurice Denis, quand c'est pas trop tiré vers la dimension catholiciste, même si, tout de suite, à l'âge de 16 ans, hein, Maurice Denis dit la peinture est un art essentiellement chrétien et religieux. Alors, chrétien, oui, parce que la peinture, ça vient d'un culte, on est un peu désolé de le dire, on n'a pas respecté le commandement qui est « tu ne représenteras pas », mais c'est quand même culturellement presque une information. Et au-delà de ça, effectivement, ce qui les réunit, c'est le décor dans cette exposition, et au-delà du décor, c'est tout ce qui relève de l'art nouveau après les art and craft, la naissance du design en Angleterre, puisque c'est aussi, on le voit dans l'exposition, Siegfried Bing, qui va ouvrir sa maison de l'art nouveau, et on voit bien que chacun d'entre eux ont un rapport avec le monde, parce que comme la création de ce groupe en 1896, l'art dans tout. Voilà, donc c'est l'art nouveau, effectivement, cette manière d'habiter le quotidien avec de l'art.
L'exposition à présent qu'on découvre au Musée du Luxembourg jusqu'au 30 juin, Naël Pigeat, comment a été construit ce parcours par les commissaires ?
Mais ce qui caractérise ce parcours, c'est d'abord de réunir de grands ensembles décoratifs qui ont fait l'objet de prêts tout à fait remarquables, puisque la plupart de ces décors, après avoir fait l'objet de commandes privées, ont été séparés et éparpillés un peu partout dans le monde. Le parcours en lui-même se compose de quatre parties. La première sont les femmes au jardin, donc là on voit quelques ensembles, notamment un extraordinaire ensemble de Vuillard sur les jardins publics qui a été fait pour Alexandre Natanson. Un extraordinaire ensemble aussi de Bonnard sur la cueillette des pommes. On a l'impression de sentir vraiment les pommes qui tombent dans l'herbe, le bruit, l'odeur, l'humidité. Enfin, c'est d'une vie absolument saisissante. La deuxième partie concerne les intérieurs. Alors là, en fait, c'est surtout une deuxième partie consacrée à Vuillard avec deux ensembles qui sont pour moi le cœur de l'exposition, totalement éblouissant. La série de décors, enfin la série de panneaux, l'album qui a été fait pour Missia et Thaddée et Natanson, et l'ensemble de décors qui vraiment sont une folie absolument sublime, totalement délirante, où les fonds se mêlent. Deuxième ensemble a été fait pour le docteur Vaquez, un peu plus sage, mais très remarquable aussi. La troisième partie est une évocation de l'art nouveau, avec des tapisseries, des prototypes, des objets, des projets d'abat-jour, des paravents, quelques gravures japonaises aussi de la collection de Vuillard. Je trouve que cette partie-là aurait pu mériter d'autres développements. Il y a les papiers peints aussi. Et puis la dernière partie, il y a aussi les vitraux de Tiffany. La dernière partie concerne une de ces deux tendances dont parlait Corinne, les rites sacrés. Et il y a plusieurs ensembles aussi. L'un de Sérusier pour le nabi sculpteur Georges Lacombe. Et puis un ensemble un peu étonnant de Maurice Denis qui concerne la légende de Saint-Hubert qui a été commandée par le baron Denis Cochin, une famille assez religieuse visiblement, et qui présente à mes yeux une certaine lourdeur.
Nous y reviendrons avec vous. Ingrid Duquegal, vous disiez dans le petit tour de chauffe avant de développer, ça aurait pu s'appeler une habit tout court, parce que c'est vrai que la question qu'évoquait Corinne Rondeau, c'est que les nabis prennent très au sérieux la question de l'art décoratif, l'art ornemental. Donc pour vous, les nabis et le décor, c'est quoi? C'est un pléonasme?
Mais alors effectivement, chez eux, on voit qu'il n'y a pas du tout de séparation entre l'un et l'autre, entre les différents supports, puisqu'une des premières pièces de l'exposition, c'est un paravent de Bonnard, qui réalise pour le Salon des Indépendants en 1891, et à propos desquels il va dire que ils feront bien mieux contre le mur, c'était trop tableau pour un paravent. Donc on voit chez lui qu'il peut totalement passer d'une forme à l'autre, et de manière plus générale, effectivement, c'est l'application directe des idées qui les soudent, d'une part d'un point de vue contextuel, puisqu'on est au moment de la disparition du régime impérial et de l'avènement de la République. Donc on veut vraiment ancrer les choses dans la vie quotidienne et inventer un cadre de vie en accord avec l'époque. Et justement, les transformations rapides du monde de vie, l'industrialisation, provoquent plutôt un repli sur soi et un désir de passer. Donc c'est-à-dire que dans les styles d'aménagement intérieur, on a une floraison de néo-gothique ou de néo-renaissance, de néo-plein de Louis les uns et les autres. Et on n'avait pas encore ce renouveau, cette représentation de la vie moderne qu'on avait dans la peinture avec les impressionnistes. Donc pour eux, c'est vraiment, puisqu'ils s'opposent aux impressionnistes, c'est aussi occuper un terrain qui avait pour l'instant été laissé vierge. Et de l'autre côté, c'est également une problématique aussi morale, puisqu'il s'agit également de produire des objets de bon marché qui pourraient vraiment pénétrer la société. Une deuxième chose, c'est également que la peinture de Gauguin, la fameuse découverte de la peinture de Gauguin qui intervient 4 mois après que Serizier ait peint le talisman, va l'être dans le cadre d'une exposition universelle de 1889, mais ils vont la découvrir vraiment dans un décor d'intérieur. La peinture de Gauguin va pas être présentée sur une simèse, mais dans un appartement, dans un accrochage qui va être réalisé par surface lourdement décorative. Donc d'emblée, cette découverte-là va aussi impulser la suite du contexte dans lequel ils vont avoir envie de montrer leur réalisation, que ce soit des peintures, des vitrines, des céramiques ou des panneaux décoratifs.
Corinne Rondeau, sur cette question, l'énabie et le décor, effectivement, pour vous, est-ce que c'est redondant ou est-ce qu'on y apprend quand même des choses nouvelles? Est-ce que ça nous offre un nouveau regard sur ce mouvement?
Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, c'est des modernes et qui rejettent tout le temps de l'art suranné. Mmh. Aujourd'hui, quand on le voit, on se dit, c'est eux qui sont surannés. Alors, parce qu'on est marqué aujourd'hui, c'est l'impressionnisme. On nous fait bouffer de l'impressionnisme en permanence. J'ai beaucoup plus de goût pour les nabis, dans la mesure simple, c'est qu'ils appartiennent vraiment à leur temps. C'est-à-dire la volonté de déhiérarchiser les arts, de décloisonner, de jouer à l'intérieur, à l'extérieur, et de ne plus chercher le modèle, je dirais, d'imitation qui est la nature. Et que dès 1850, avec la naissance du design, la question du décloisonnement des arts majeurs, des arts mineurs, n'a plus lieu d'être. Et que les nabis représentent en France un pays le plus réactionnaire, le plus conservateur, l'endroit en Europe où l'art nouveau, on n'en veut pas, c'est en France. Les nabis incarnent le moment où le décloisonnement a lieu. Alors évidemment, on nous le montre avec le décor parce qu'on est un pays de théâtre, mais cette exposition a quand même trop peu, mais elle a quand même le mérite de nous montrer des abat-jours, enfin des études d'abat-jour, du projet de marqueterie, de la collaboration avec des vitriers, puisque Siegfried Bing part, ça marche pas évidemment, l'art nouveau marche pas, son magasin d'art nouveau marche pas en France, il part aux États-Unis à New York, et il va voir Tiffany's, le verrier, il dit moi je veux travailler du vitrail, et qui c'est qu'on a, bon on va avoir du Vuillard, on va avoir du Serrurier qui vont se mettre à faire du vitrail, donc on a du vitrail, on a de la collaboration avec de l'ébénisterie, Hérold. On a le caractère de tout ce qui est de l'ordre du tout, c'est-à-dire le tout de la maison, la manière dont on a à habiter son être et son mode d'être fin 19e, début 20e, ça va être justement la maison, l'habitat. Et le décor, c'est l'habitat de vie, c'est pas que le décor pour le théâtre. Le paravent, c'est un décor de maison. C'est donc, je trouve que l'exposition a cette manière très élégante, je dirais, de nous dire, il y a le monde extérieur, l'impressionnisme, et donc ils font des grands murales comme ça, et la nature d'un coup ils la dégagent. C'est ce que je trouve de moins intéressant. Et puis d'un coup effectivement avec Vuillard et Denis, là on a cette espèce de, à la fois le mystère, à la fois la nuit, le nocturne avec Denis qui sont des tableaux assez beau, horizontaux, qu'on n'a pas le voir, mais on se dit, ils sont au-dessus d'un lit, par exemple. Ouais. Les grands murs, c'est de la tapisserie, la peinture de Vuillard. Donc, c'est le fond et la forme à l'intérieur. Et donc, d'un coup, après, vous avez un retour, et ensuite, vous êtes cette grande ligne où vous avez des choses. Voilà. Des choses ou des motifs faits pour des choses. Et donc, je trouve que cette exposition dans un espace qui est très petit au Musée de Luxembourg, on n'a pas toujours de très, très bonnes expos. Je trouve que là, de nous rappeler cette période-là, c'est la déhiérarchisation, la décloisonnement, en travaillant la cloison et le mur, justement, ça me paraît tout à fait judicieux.
Ingrid Le Kegan.
Il me semble qu'on voit vraiment que leur manière de peindre découle aussi de cette idée-là. On le voit avec beaucoup de précision chez Vuillard. On a des personnages qui sont totalement fondus dans le décor, oui, puisque la robe a le même motif que la tapisserie à fleurs derrière. On sent qu'ils peuvent vraiment s'affranchir de la représentation et de la figure, justement en jouant sur ce décor et de all-over, avec évidemment à la fin le retour de bâton un peu paradoxal, puisque plus on avance dans l'exposition, plus ça devient étouffant et mystique. Et donc, il rejoue un peu quand même la posture qu'il critiquait au début, c'est-à-dire cet enfermement et cette peur de la vie moderne.
Annaëlle Pijat.
Mais ils partent effectivement d'un objectif démocratique, d'un objectif extrêmement utopique. Et finalement, on a l'impression qu'il s'arrête avant sa mise en œuvre, qui aura lieu, comme vous le disiez tout à l'heure, quelques années plus tard, finalement, à peine 100 ans plus tard. Il y a cette figure de Siegfried Bing qui est un marchand et qui a une galerie, mais un magasin d'une sorte un peu particulière, puisque, et c'est ça qui est évoqué dans la partie de l'exposition qui concerne l'Art Nouveau, il reconstitue des pièces entières, une salle à manger entière, une chambre à coucher entière. D'ailleurs, la série de Vuillard, l'album qui est commandé par les Nathanson, Tadé, Missia, passe aussi par chez Siegfried Bing. C'est là que je trouve que l'exposition aurait pu donner un tout petit peu plus à sentir ce qu'a été cette maison de l'Art Nouveau dans le 9e arrondissement de Siegfried Bing en 1895. Mais en même temps, il faut dire que c'est extrêmement difficile de le faire puisqu'il y a assez peu de documents, peu de photographies, à la fois, enfin, de ces endroits, il y en a, mais des appartements en tout cas, et des décors in situ, si on peut dire. De ça, en revanche, il y en a assez peu. Ce qui est intéressant de voir dans la série, dans les deux ensembles de Vuillard, d'une beauté si saisissante, c'est leur format, parce que celui du docteur de l'ensemble du docteur Vaquez est d'une régularité, enfin il y a deux formats de panneaux, enfin il y a une certaine régularité. L'ensemble des Nathanson, en revanche, les panneaux sont tous de quasiment de tailles différentes, et on sent une fantaisie et un humour aussi dans ces images, dans ces compositions, qui est présent dans ce groupe des nabis. Ils ont tous des surnoms invraisemblables. Serrusier s'appelle le nabi à la barbe rutilante, Vuillard s'appelle le nabi zouave parce qu'il a fait son service militaire. Et finalement, il y a une fantaisie, un humour qu'on semble perdre un petit peu dans certaines autres tendances que certains ont pris par la suite.
Dernier mot, Corinne Rondeau.
Non, c'est juste que ce sont des peintres. Il reste des peintres. Et je pense que le non-développement de l'Art Nouveau, c'est culturellement que c'est constitutif. Et c'est la raison pour laquelle, mais bon, je ne suis pas historienne, l'expo finit sur la peinture à nouveau. Mais elle finit sur leur différence alors qu'ils sont partis ensemble. Et là, je pense qu'il y a une dimension culturelle franco-française.
C'est pas une raison pour pas l'évoquer au milieu de l'exposition.
Non, je crois qu'en fait, quand vous avez une petite expo et que vous ramenez quand même ce qu'on ignore des nabis, parce que chaque fois on nous saoule avec les panneaux, et que là, d'un coup, ça s'ouvre pour nous dire, bah, finalement, ce qui est peut-être le moins bien, c'est aussi leur vocation, chacun. Et c'est là c'est le départ commun et c'est la séparation. Donc l'utopie, elle marche peut-être à certains endroits, mais pas à toutes. Mais ça reste quand même des symbolistes qui vont avoir chacun leur manière de vouloir, encore une fois, porter...
Ce qui est certain, c'est que la partie embellir la vie, là, ça marche.
Mais c'est vrai que c'est le mot décor est bien choisi parce qu'on a vraiment une conception de l'intérieur de la maison comparé au mouvement Art and Craft qui eux essaient vraiment de sortir dans l'espace public. Donc je pense que cette mise en parallèle aurait peut-être été intéressante juste en point de comparaison à la fin sur cette idée justement de décoratif.
Bon, beaucoup de choses à voir malgré tout dans une petite exposition, des choses à apprendre. Les Nabis et le décor, c'est jusqu'au 30 juin au Musée du Luxembourg, catalogue coédité par la RMN Grand Palais et les musées d'Orsay et de l'Orangerie. Et le coup de cœur de Corinne Rondeau qui nous amène dans la galerie Christian Berst pour découvrir Lycanthropos 2 de José Manuel Ejea. De quoi s'agit-il ?
Oui, deux, parce qu'il y avait en 2016 déjà, alors parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup, figurez-vous, que je ne veux rater rien de ce qui est présenté de lui. Lycanthropos, c'est le nom scientifique de loup-garou. Et vous savez, on disait de Odilon Redon que c'était le prince des songes. Et quand je vois du José Manuel Herrera, je vois de Odilon Redon, de loin, mais un petit-fils. C'est le petit prince de l'obscurité, je dirais. Alors que fait-il ? Eh bien, il va recouvrir des photographies de magazines papier glacé, parce que quand il était petit, il est né en 88, à 10 ans, il arrachait les livres d'art de ses parents, et il dessinait dessus. Et finalement, on lui a dit, tiens, prends du papier glacé, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, ses pages sont arrachées, il les recouvre partiellement ou complètement, et ce qu'il recouvre, c'est avec du trait, du stylo-bille, du feutre, pour faire apparaître la transformation du loup-garou, puisqu'en fait, il parle de la part du loup qui est en nous tous. Et donc, évidemment, on ne va pas lui demander de dessiner un mouton à José Manuel Herrera. C'est au contraire quelque chose qui me plaît énormément, parce que au-delà de cet art brut qu'on appelle, il y a quelque chose de commun avec ces forces de l'imagination de Redon, et lui, ça serait plutôt la force du loup-garou, avec ce travail de très très fort du stylo bille qui va finir peut-être par abîmer le papier. Donc il y a une vraie interpénétration entre une image qui n'est pas la sienne et qu'il va il va recouvrir quasiment ou pas de son support, et cette manière d'interpénétrer une image avec son stylo bille pour en faire une autre, eh bien c'est aussi un travail d'interdépendance. Et je trouve que entre une image de papier glacé, alors ça peut être des personnages de cinéma, de mode, etc., de journaux, il y a un travail d'échange entre la visibilité à outrance qui est la nôtre, et puis ce trait, finalement, finit par être de la sensibilité. Et ce que je trouve très fort, finalement, c'est qu'il a une manière de renvoyer à une ouverture du regard. Il maintient l'œil hors du repos. Il retrouve de l'expressivité. Voilà. Là où il n'y en a plus. Et je trouve que, voilà, cet homme-loup que j'aime beaucoup, me donne à penser aussi l'image comme support, mais aussi de comment on renverse un fond en forme à travers le noircissement, la déchirure, le découpage, les nucléations des portraits. Et c'est d'une beauté à tomber par terre.
Bon, on peut tomber par terre jusqu'au 1er juin à la galerie Christian Berst pour aller découvrir Lycanthropos, c'est à mon tour, de l'exposition de José Manuel Herrera.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Dernière exposition à notre affiche, c'est celle qui est consacrée à Stéphane Mandelbaum jusqu'au 20 mai dans la galerie d'art graphique du Centre Pompidou. C'est Anne Montfort qui en est la commissaire. Impression générale et synthétique autour de cette exposition. Corinne Rondeau.
Hypercute.
Ingrid Lukegan.
Alors, c'est une vraie découverte qui se distance du côté pittoresque d'une vie rocambolesque et qui l'ancre directement dans l'histoire de l'art.
Et enfin, Annel Pigeon.
J'allais parler d'une formidable redécouverte qui va permettre d'oublier un peu le mythe et de regarder l'œuvre.
Ingrid Lukegan, qui était donc Stéphane Mandelbaum, puisque s'il faut s'éloigner du mythe, non, de la légende, du biographique, on va quand même
Alors
situer
effectivement, c'est vrai que
le
catalogue s'ouvre sur un mot de Bernard Blisten, qui justement exprime son intention de dissocier autant que possible sa vie et sa singularité plastique. Donc, pour donner un exemple de cette figure rimbaldienne, pasolinienne et tous les qualificatifs qu'on pourrait appliquer comme ça à une figure d'artiste voyou et d'artiste maudit, j'aimerais commencer par sa mort. Il meurt à l'âge de 25 ans, assassiné sur ordre de ses complices, qui étaient les commanditaires du vol d'un tableau de Modigliani, qu'il abandonne à demi défiguré par l'acide dans un terrain vague.
Qu'on retrouvera un peu plus tard du côté de Namur.
Donc avant ça, il est né, il a une enfance relativement classique, puisqu'il naît en 1961 à Bruxelles. Ses deux parents sont peintres. Son père, Harry Mandelbaum, sera souvent représenté, et sa mère, illustratrice, Pili Mandelbaum. Il est donc issu d'une famille juive polonaise, dont il retrouve les racines par son grand-père, qu'on retrouvera également représenté dans ses toiles, qui s'appelle donc Salomon Mandelbaum. Il commence à dessiner parce qu'il est dyslexique. Donc c'est vraiment une recherche comme ça du mot qui se fait au fil de carnet. Et donc où on retrouvera toujours ce côté griffonné, ce côté de la pensée en action à côté de portraits beaucoup plus ciselés et beaucoup plus détaillés. Il fera donc des études de gravure à l'école de son père, mais très vite il épouse Claudia, une immigrée congolaise, et donc c'est là que commence sa vie proprement rimbaldienne, puisque lui aussi va aller en Afrique et se lancer dans le trafic d'armes. Et donc on a comme ça une figure absolument prête à être inscrite dans l'histoire par un côté biographique, mais qu'on découvre ici au Centre Pompidou plutôt par les figures comme ça stellaires de l'histoire de l'art qui l'ont marqué.
Alors justement, ces figures, et pour parler de la production de Stéphane Mandelbaum, Anaël Pija, on va le voir, hein, c'est assez clair dans l'exposition, mais les thématiques qu'il travaille.
Mais il y a plusieurs thématiques qu'il mène de front, des thématiques parallèles et successives, beaucoup de visages et beaucoup d'annotations. Il y a d'abord des autoportraits extrêmement introspectifs, parfois avec des commentaires fulgurants, par exemple le moment où il écrit « Il me reste 5 ans à vivre », alors qu'effectivement il lui reste pas loin de 5 ans à vivre. Il y a une série de figures masculines, essentiellement liées à sa famille, comme le disait Ingrid, liées à ses origines Ashkenaz, son père et son grand-père notamment. Il y a tout son lien à l'art qui s'exprime aussi à travers un certain nombre de portraits d'artistes. Il y a toute une série autour de Pasolini, une série autour de Francis Bacon et de l'un de ses amants, une série autour de Rimbaud. Il y a aussi des feuilles qui sont des sortes de pêle-mêle, de citations de ses lectures, de ses découvertes artistiques où l'on voit apparaître Hergé, l'Empire des Sens, Archimboldo, donc dans des registres très divers. Parmi ces thématiques, il y a aussi une très grande présence de la violence. Il y a la figure de Pierre Goldman, donc ce gangster à qui il s'est assez grandement identifié. Et puis, il y a ce qu'il appelle des figures de répulsion, les dignitaires nazis qu'il portraiture aussi, des figures de punk qui sont dans l'exposition associées à ces dignitaires nazis, et puis toute une thématique érotique, parfois pornographique, qu'il représente à partir de ses visites, de sa fréquentation des bas-fonds de Bruxelles et d'Ixelles en particulier, avec des grands portraits extrêmement réussi, dans lequel on voit des prostituées, des clients de boîtes de nuit. Et puis, il y a encore un certain nombre de pêle-mêle, de grands et petits formats, enfin que j'appelle pêle-mêle, mais qui sont en fait une sorte de journal imaginaire, totalement griffonné. Là, ça concerne des feuilles de papier A4 où on voit des inventaires de braquages qu'il n'a pas toujours commis, de vraiment un journal de ses obsessions, toutes ces feuilles étant très souvent littéralement gravé par une logorée de mots qui est d'autant plus surprenante qu'on sait qu'il était dyslexique et donc qui interviennent comme ça comme une sorte de flot de paroles extrêmement saisissant.
Alors avec cette très courte carrière forcément, mais cette grosse production, on voit qu'il va dans quand même pas mal de sens à la fois. Comment cette exposition dans le cabinet d'art graphique au Centre Pompidou est-elle construite?
Mes camarades l'ont dit d'une certaine manière, vous avez les portraits de famille, on va dire, les destins. Alors, on arrive avec un grand fusain craie grasse noir, comme une peinture noire à la Goya, quoi. C'est le nazi, Saint-Nicolas, les frères et la grand-mère. Et quand vous voyez ce grand format, vous dites « Waouh, je crois que je vais rentrer dans un espace ». On est content de revoir du Mandelbaum, on en voit très peu. On en avait vu dans la collection de Marin Karmitz, qui a beaucoup soutenu, je pense, Blisten, mais aussi Antoine de Galbert, qui sont quand même des observateurs
des œuvres de l'exposition.
Et des gens quand même qui sont très engagés dans l'art de ceux qui sont plus là, mais qui ont été aussi des porteurs de mémoire. Car cette petite œuvre qui commence par la famille, qui ensuite continue par les miroirs de Pierre Goldman, vous l'avez dit, etc., je ne vais pas recommencer, mais aussi ensuite le petit cabinet avec le nazisme, et puis ensuite la pornographie. Donc on a effectivement, comme les titres de l'expo, Destin tragique, désir d'histoire, réalité et fiction. Bon, alors ces trois parties, moi j'aurais préféré que vraiment, avant qu'on ait Pasolini et Bacon, on ait avant le Goebbels et les nazis, c'est punk là, parce que c'est pas la peine de le répéter dans un deuxième temps. Je pense que ce qui est fort, c'est de voir à quel point à la fois il regarde quelque chose de son destin brisé. C'est la deuxième génération quand même des Juifs après les camps. Et en général, c'est une génération qui paye cher leur existence. Pierre Goldman n'était pas qu'un gangster. Pardon, Anaël, c'est aussi un écrivain, un chanteur, un militant d'extrême droite, un révolutionnaire. Et effectivement, Pierre Goldman, c'est aussi la deuxième génération. C'est quand même celle qui... à un moment donné, a besoin de revanche. Et cette manière de revanche, elle est inscrite dans la violence des dessins de Mandelbaum. Mais cette violence, elle est du dessin. C'est-à-dire qu'il est capable d'arracher quelque chose au dessin. Moi, je suis stupéfaite. Je suis sous l'emprise des dessins de Mandelbaum. D'abord parce qu'il passe de format assez grand à de très grands formats. On passe effectivement par les années 70 quand même, la démocratisation pornographique. Donc on va avoir du collage avec de l'histoire de l'art, mais une casquette nazie, un sexe ouvert, et à côté le père d'ailleurs, en yiddish, le type qui est dysorthographie, dyslexie, il apprend yiddish grâce à son grand-père et il écrit « baise mon cul » en yiddish sous le portrait de son père. Il y a tout ce travail de raturage quasiment, mais qui n'en est pas, c'est de l'inscription. La lettre compte autant que le dessin, et c'est un art de portrait. Et en fait, c'est comment avancer dans le temps de la création à l'intérieur de la rencontre des corps vivants pour la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Donc il est dans une sorte de justesse et de brutalité aussi de ce rapport du vivant et du mort lié à sa propre histoire, bien sûr, mais dans le dessin, bon, je pense qu'il faut que les autres parlent.
Et qu'on vous entende quand même, quand vous éloignez du micro. Annaëlle Pigeon.
Il y a une chose que montre très bien l'exposition, c'est qu'il y a eu des tentatives de rattacher Stéphane Mandelbaum à l'art brut. Ça n'est pas le cas du tout. C'est un artiste qui est en fait extrêmement savant. Il parle, quand il parle de ses journaux et de ses annotations et de ses griffonnages de scraboucha, mais ces scraboucha sont extrêmement nourris d'histoire de l'art. Il colle autour des panneaux autour du portrait de Pasolini, des images de Bellini et d'Antonello de Messine. Il parle de Masaccio à propos de son goût et du goût de Pasolini pour les gros plans. Et puis, c'est un dessin totalement virtuose dans ses compositions. Il y a une planche, par exemple, enfin une feuille, par exemple, qui est consacrée à Rimbaud, dans laquelle toute la composition est massée d'un côté de la feuille, laissant l'autre intégralement vide, qui est absolument magnifique. Il y a une figure de Bacon qui est appuyée sur un scotch qui barre comme ça toute la hauteur de la feuille, qui est aussi extrêmement inventive, extrêmement forte et réussie. Et finalement, on se rend compte que c'est un artiste dont la puissance réside à la fois dans la force plastique, mais aussi dans la connaissance de l'histoire de l'art, des techniques et de la maîtrise de son art.
Ingrid de Klegan.
Effectivement, je pense que c'est très important de ne pas le neutraliser en parlant d'art brut et de ne pas le placer en marge justement de toutes ces considérations d'histoire de l'art et vraiment d'époque, quelque chose de très contextuel, puisque ce qu'il fait, c'est vraiment prendre ce qui est dans l'esprit du temps et de lui poser cette torsion comme ça intime. Moi, j'ai l'impression qu'il a un peu anticipé le degré zéro de l'image dont parle Baudrillard, précisément à propos de la pornographie et de la violence extrême. C'est-à-dire qu'en dessin, avec une technique incroyable, il représente quand même ces irreprésentables qui par la suite deviendront des images médiatiques qu'on connaît tous. Et on se rend compte que dans le dessin, dans la représentation de ces sujets auxquels on a tous accès aujourd'hui, on retrouve quand même une espèce de choc un peu comme ça primordial face au dessin et qui était effectivement son ambition, puisque par rapport à la Shoah, lui, il s'inscrit effectivement dans une période où on est à l'ère de la normalisation. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il essaie de contrer, puisque c'est l'époque où sort d'un côté les films Shoah de Claude Lanzmann, mais également des films qui vont érotiser et esthétiser le nazisme, comme Portier de nuit de Liliana Cavani, ou Visconti aussi, dans la scène de La nuit des couteaux, il y a une scène comme ça, homéorotique, justement. Et il me semble qu'il répond vraiment directement à l'époque et que c'est pas seulement comme ça des petites notes de bas de page d'un obsessionnel qui serait dans son propre espace-temps.
Corinne Rondeau, je vous ai arrêté en plein vol. Vous vous êtes arrêtée toute seule, mais il reste
toute petite minute.
Si, toute seule. En quoi il est important de découvrir, parce que Stéphane Mandelbaum, ne nous le cachons pas, il est quand même très 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 peu connu. En quoi il est important d'aller le découvrir à Beaubourg?
D'abord, grand remerciement à Pompidou de s'accorder, même si c'est le cabinet d'art graphique, de nous montrer des images où la brutalité, la violence, parce que c'est notre temps aussi, c'est pas du tout vieux Mandelbaum, c'est actuel, c'est ultra contemporain. En soi d'ailleurs, pour être un peu en opposition à mes camarades, je pense qu'il y a des tas d'artistes d'art, qu'on dit d'art brut, qui ont une culture, qui travaillent avec la culture de leur temps, et que pour le coup Mandelbaum, je pense qu'il y a de l'hyperactivité extrême, et que c'est une manière de nouer l'art au-delà de toutes les distinctions, et je trouve que c'est ce qui fait la grande force percutante de son dessin. C'est d'être à la fois dans la brutalité et l'histoire, et je trouve que c'est ce qu'il nous faut.
Stéphane Mandelbaum, c'est jusqu'au 20 mai au Centre Pompidou, au cabinet d'art graphique, que le catalogue est édité par le Centre et par Dilecta. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et donner sa réponse.
La question était: quel est le nom de l'hôtel particulier dans lequel s'est installée la Maison européenne de la photographie en 1996? Et la réponse était l'hôtel Hainaut.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Les Nabis et le décor jusqu'au 30 juin au Musée du Luxembourg à Paris. La question:
dans quelle école d'art se sont rencontrés les premiers peintres du mouvement Nabi?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pineau et Joséphine Dumoulin, prise de son Nicolas Slimani, réalisation Alexandre Fougeron. Demain, 19h, une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Clémence Pouletti, Jean-Christophe Brianchon et François Angelier. Nous parlerons du livre de Claudio Morandini, Les Pierres, de celui de Louise Chenevière, Comme la chienne, un coup de cœur de François Angelier pour une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne, et un petit salon.